semaine. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, quel droit à la sexualité pour les personnes handicapées? Voilà une question bien tabou. Pourtant, la plupart des personnes handicapées souhaitent, désirent avoir une vie sexuelle, affective, sentimentale. Aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe, le métier d'assistant sexuel est reconnu. En France, ces prestations sexuelles tarifées ne sont pas vraiment illégales, mais elles sont considérées comme une forme de prostitution. Alors, à tort ou à raison, notre reporter Alice Milo a suivi et enregistré un étonnant séminaire de formation à l'accompagnement sexuel des personnes handicapées et bien sûr elle a recueilli des témoignages. Après le reportage, débat avec nos invités, nous attendons bien sûr aussi vos points de vue. Quel droit à la sexualité pour les personnes handicapées ? Appelez-nous dès maintenant si vous vous sentez concerné par ce sujet au 33 1 84 22 71 71 et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Mais tout de suite, écoutez le témoignage de Marcel Nuss, 60 ans. Il souffre depuis l'enfance d'un handicap très lourd dû à une maladie héréditaire qui entraîne une fonte des muscles. Seul son visage peut bouger. Il vit en fauteuil roulant avec un respirateur artificiel et l'aide de 4 personnes auxiliaires de vie. Il s'est marié 2 fois, il a eu 2 enfants. Aujourd'hui, il préside l'APAS, une association pour la promotion de l'accompagnement sexuel pour les personnes handicapées. Il raconte à Alice Milo comment il est devenu un militant de ce droit humain fondamental, avoir une vie sexuelle.
J'avais 22 ans. J'étais dans un service de rire depuis 3 ans. J'étais entouré à l'époque d'infirmières qui avaient mon âge. Beaucoup d'entre elles me racontaient leur expérience affective et sexuelle. Seulement, dès que moi j'essayais d'en parler, elles avaient un travail urgent à faire. Il n'y avait pas d'écoute et il n'y en a pas beaucoup plus aujourd'hui. On nie votre sexualité. Dans l'inconscient collectif, la reproduction des monstres, ça fait très peur. Et un jour, j'ai pété les plombs. Ce jour-là, j'ai sonné. Il y a une aide-soignante qui est venue. Et sous un prétexte fallacieux, je l'ai amenée à me découvrir. Je voulais qu'elle voie mon érection. Je voulais qu'elle constate ma normalité. Je pouvais avoir des pulsions sexuelles comme tout le monde. Je pouvais avoir des envies comme tout le monde. Elle a eu la délicatesse de jamais en reparler. Mais j'en ai eu profondément honte. Je me suis senti humilié d'être tombé aussi bas. Pendant 20 ans, j'en ai parlé à personne. Et en 2005, en souvenir de ça, je me suis engagé en faveur de cette cause. Et donc, il y a eu un colloque européen en 2007. J'ai promis aux participants que l'accompagnement sexuel deviendra une réalité.
Un rêve devenu réalité. Donc aujourd'hui, Marcel Nuss est à la tête de l'APAS, association qui forme les accompagnants sexuels qu'il a créé avec Jill. Jill, c'est cette jolie femme brune aux grands yeux verts, la trentaine, ancienne escort girl et ex accompagnante sexuelle devenue son épouse. L'association a organisé cette année 2 formations pour l'accompagnement sexuel des personnes handicapées. Pour la première fois, la justice française a autorisé d'ailleurs la tenue de ces formations. Alice Milo s'est rendue en Alsace pour assister à l'une d'entre elles. C'est finalement un séminaire comme un autre, une dizaine de participants, des hommes, des femmes, même un couple, sous les conseils bienveillants de Jill et de Xavier Morisot, ostéopathe. Par binôme, les participants se lovent dans les bras l'un de l'autre. L'un joue l'accompagnant sexuel, l'autre la personne en situation de handicap. Premier exercice, apprendre à se bercer.
Tu es sur le même travail, mais plus...
On roule les tapis ou...
Non, on les garde.
Donc l'idée, c'est vraiment de vous mettre en situation de handicap. La personne en situation de handicap ne peut pas forcément toujours faire ce qu'elle veut, donc là on imagine qu'elle ne peut pas toujours bouger comme elle le voudrait. C'est vraiment important, c'est-à-dire vous êtes amorphe, ça ne bouge pas. C'est à moi de me débrouiller pour que vous puissiez être à l'aise. Si elle a un bras comme ça, ça c'est pas bon, elle ne va pas se détendre, elle ne se sent pas en confiance, son bras il ballotte, machin. Elle va avoir des fourmis au bout d'un moment, sa main froide. L'idée c'est que la personne que vous avez là, elle doit être suffisamment à l'aise pour que moi j'ai mes mains libres. J'en avoir besoin de mes mains, c'est important. Hein.
Donc on peut partir de là, du ventre,
On peut remonter sur les côtés. Je peux redescendre très très bas. Si on descend en dessous de ça, on peut aller vers l'accompagnement sexuel. Ça peut être la porte d'entrée vers la finalité de l'acte. Ok ?
Allez, au travail.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez décidé de venir suivre cette formation justement ce week-end ?
Les besoins qu'on a tous. Pourquoi effectivement en priver d'autres personnes qui ont tant de malheur, sont handicapées et en plus ils n'ont pas le droit au plaisir. Et ça m'est insupportable.
Là, vous suivez cette formation. Comment vous envisagez les choses dans l'avenir alors ?
On verra bien donc les personnes qui nous solliciteront. Puis on progressera petit à petit sur le toucher, sur la sensualité et bien entendu sur la sexualité qui pour moi ne me pose aucun problème. Ah, ce sera vraiment le minimum, je n'y ai pas réfléchi vraiment, mais ce ne sera pas des tarifs exorbitants. Je veux pouvoir être à la disposition, entre parenthèses, du maximum de personnes qui peuvent être concernées.
Vous ne faites pas ça pour l'argent?
Ah non, mais moi, j'ai ce qu'il faut, j'ai un salaire et un bon salaire. Je ne suis pas dans le besoin, pas du tout.
Vous faites quoi comme métier?
Je travaille dans une banque.
Jusqu'où vous êtes prêt à aller dans cet échange?
Je veux surtout qu'elles aient toute leur tête. Si elles n'ont pas leur raisonnement, etc., non, ce ne sera pas possible pour moi. Moi, je rends service, j'agis. Ça peut paraître bizarre, mais dans ma vie, j'ai fait plein de choses sans en attendre forcément du retour.
Moi, j'ai eu froid.
Ouais, c'est important, ouais. Prenez des couvertures le jour où vous serez amené à gérer des accompagnants.
On demande en général que la personne soit préparée. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit « Ouais, alors où est le charme, le romantisme de se déshabiller, la sensualité, l'excitation de se déshabiller ?» Bon, désolé, je prends toujours l'exemple de mon mari, de Marcel. Voilà, je vous mets au défi d'aller le déshabiller, de le mettre dans son lit.
Donc l'enjeu, c'est toi-même de te déshabiller, peut-être ?
Oui, de se mettre à nu, dans tous les sens du terme, assez rapidement. Je suis Jill Nuss, je suis la secrétaire de l'Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel et ancienne escort girl et accompagnante sexuelle. Donc on commence par une après-midi de droit et ensuite le lendemain on aborde tout de suite un travail sur le rapport au corps, le toucher, on ne se met pas nu, on n'apprend pas le massage tantrique, on n'apprend pas à masturber des personnes, ou on apprend à se toucher. Et on apprend à connaître le rythme du corps de l'autre, avec des petits exercices de bercement, de balancier. Quand j'ai rencontré un jour un monsieur qui avait une trachéotomie, je ne savais même pas qu'on pouvait respirer comme ça par la gorge, avec un tuyau qui part directement dans la trachée. Donc il m'a expliqué comment ça fonctionnait. Je me suis dit, je vais tomber du lit, je vais arracher tous les tuyaux, ça va être horrible. J'ai appris vraiment les différents types de handicaps. Dans cette formation, on apprend des bases, mais après, il va falloir s'adapter. Mais on ne pourra jamais mieux apprendre qu'en pratiquant. Donc quand les stagiaires là, me demandent « mais jusqu'où on peut aller ?», ça dépend vraiment de chaque personne. Si tu ne te sens pas d'aller jusqu'au rapport sexuel, ne le fais surtout pas. Il ne faut pas se forcer à faire quoi que ce soit. Moi, je pratiquais tout. Moi, je me suis lancée un jour toute seule, comme ça, par envie, dans le monde du libertinage. Et voyant que ça me plaisait énormément, je me suis dit, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? Qu'est-ce qu'il y a comme métier où on peut faire l'amour comme ça, aussi souvent? Comme le disait Confucius, trouve un travail qui te plaît et tu n'auras plus jamais à travailler de ta vie. J'ai choisi de me lancer dans la prostitution. J'ai pris un deuxième téléphone. Je me suis inscrite sur des sites d'escorte. Donc au fil de mes rencontres, il y a des personnes en situation de handicap qui ont commencé à me contacter. Ça a été une prise de conscience très très forte et très impressionnante pour moi après mon premier rendez-vous avec une personne en situation de handicap, parce que jusqu'à présent, ma seule préoccupation c'était « oh là là, ça doit pas être facile pour eux de monter dans le bus ». Je vivais valide dans un monde de valides. Et j'ai vu ce monsieur qui n'avait pas l'usage de ses jambes, mais qui avait un problème aux mains aussi, qui avait les mains plutôt atrophiées. Il ne peut pas boire tout seul, se déshabiller tout seul. Il ne peut pas se gratter forcément tout seul, le nez, l'oreille, et forcément pas se masturber seul non plus. Et ça a été une vraie prise de conscience. Beaucoup de personnes handicapées sont touchées tous les jours de façon très mécanique. Très médical, un toucher très froid finalement, pour être porté, habillé, déshabillé, laver avec un gant. Beaucoup de témoignages donc, de ces personnes qui nous disent « Moi, à ce moment-là, je me déconnecte. » Et comme un bouton, à ce moment-là, j'appuie sur « Off » et je suis déconnectée. Je me mets en situation de pantin parce que c'est super violent. Il n'y a aucun toucher sensuel, érotique. Et donc, on est là pour les reconnecter vraiment à leur corps. Là, l'intention va être de réveiller une énergie sexuelle. C'est super important dans la construction de la sensualité, de la sexualité d'une personne.
Après une formation de 3 jours et demi, les stagiaires peuvent commencer à proposer donc leurs services payants aux personnes handicapées. Et c'est bien là tout le débat. Pierre Lacarantaine, habitant en région parisienne, a reçu chez lui une accompagnante sexuelle.
Je suis atteint d'une maladie neuromusculaire et en fait j'ai commencé à perdre donc ma force musculaire à l'âge de 12 ans. Je me suis marié, j'ai eu un enfant. Au cours des années 2005-2006, tout a un peu explosé dans ma vie, à savoir que j'ai perdu l'usage de mes jambes, j'ai perdu en même temps mon travail et j'ai divorcé. Je me déplace toujours en fauteuil roulant. J'ai à peu près une quinzaine d'heures d'auxiliaire de vie par jour pour mes soins quotidiens. Et c'est vrai qu'il m'arrive, pour certaines auxiliaires, d'avoir du désir. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui vient, je demande à ce qu'on me mette un drap et que la personne, elle sorte pour faire autre chose. Bon, malheureusement, je ne peux plus me soulager tout seul. J'attends que ça se passe, quoi. Ça entraîne souvent des frustrations, quoi. C'était en 2011 ou 2012, j'ai invité une escorte à la maison et malheureusement, en fait, ça s'est assez mal passé.
Est-ce que vous l'aviez prévenu que vous étiez en situation ?
Je l'avais prévenu, effectivement, mais dès le départ, j'ai plein de calques sur mon fauteuil et pour pouvoir me mettre à l'aise, je demande à ce qu'on m'enlève des calques. Et je demande aussi à ce qu'on m'aide à enlever mes vêtements. Et malheureusement, elle s'est énervée sur les cales, elle n'a pas su les enlever, et je sentais franchement qu'elle était mal à l'aise face à ma situation, quoi. Elle a fait la prestation, mais bon, moi je me sentais pas à l'aise du tout. Ça m'a totalement bloqué. Elle est repartie très vite, en fait, en me laissant complètement sur ma faim. Elle m'a laissé tel quel sur mon fauteuil.
Vous gisiez dans votre fauteuil nu, en fait.
Voilà. Et j'ai dû attendre, en fait, le passage d'une auxiliaire de vie pour remettre mes habits et puis pour me remettre correctement sur mon fauteuil, quoi. C'était un fiasco, un échec total, quoi. Et malgré tout, en fait, j'ai dû payer une somme assez conséquente, 500 euros. Suite à ces expériences, j'ai décidé donc de prendre contact avec l'association de Marcel Nuss et qui m'a aidé à faire venir une accompagnante sexuelle. Pour tout vous dire, j'attendais juste l'acte, un acte sexuel pour pouvoir effectivement me libérer, quoi. Et ça s'est vraiment bien passé et moi ce qui m'a énormément plu et soulagé entre guillemets, c'est que la personne soit présente et qu'elle soit restée pendant un moment, que ce soit en parlant, que ce soit en restant là, présente, ou parler ou pas parler, quoi. Et ça c'est quelque chose de très important. Je sentais que c'était une personne qui était à l'écoute. Le coût exact de l'intervention, c'est le coût du billet de train qui était à peu près de 100 euros et le coût de la prestation, entre guillemets, c'était 150 euros. C'était une expérience humaine qui m'a fait progresser, en fait, je pense. Qui me donne plus de courage pour la suite, quoi.
Une accompagnante sexuelle qui va venir rencontrer un monsieur n'est pas là non plus forcément pour réaliser ses fantasmes. S'il veut qu'elle débarque en infirmière ou en écolière, elle n'est pas là pour ça. Il faut faire appel à une escorte. En tout cas, nous, c'est notre vision de l'accompagnement sexuel. Elle est vraiment là dans un but, retrouver l'estime de soi, de la confiance en soi. Ça va d'un simple corps à corps. Je rêve d'être allongée nue contre une femme nue. J'ai jamais connu ça. Ça peut être aussi simple que ça. Et puis des gens qui veulent vraiment avoir un rapport sexuel, à l'image d'une femme qui est même dans notre association. Et moi, je veux pas mourir avant, sans avoir fait l'amour au moins une fois dans ma vie. Les accompagnants sexuels sont vraiment des tremplins pour qu'une personne ensuite puisse, entre guillemets, voler de ses propres ailes, puisse aller à la rencontre d'une autre personne, en tout cas dans sa vie intime et sexuelle. Ce monsieur qui a bénéficié d'accompagnement sexuel regarde cette femme et lui dit « Hé, je suis plus puceau, hein, je sais faire l'amour. » Mais c'est très parlant, je l'ai vécu en vrai. Quelqu'un qui m'a dit « Merci parce que je suis aujourd'hui en couple et quand j'ai été nue pour la première fois au lit avec ma copine, j'étais pas tétanisée. Je savais que j'étais en capacité de donner du plaisir et d'en recevoir aussi, malgré le fait que ce monsieur soit paraplégique et qu'il n'ait plus de sensation à partir du nombril. » Mais il savait qu'il était en capacité de recevoir et de donner du plaisir. Quand la moelle épinière a été touchée, il n'y a pas toujours d'érection ou l'érection est très compliquée. Alors le plaisir, on le voit dans le film Intouchable où il se fait masser les oreilles. C'est une réalité, effectivement. On peut avoir des orgasmes avec des caresses d'oreilles ou dans le cou, des bisous dans le cou. C'était vraiment très très fort. Marcel Nuss lui-même, qui est le président de l'association.
Et votre mari.
Et mon mari, accessoirement.
qui est lui-même handicapé. Hein.
Lourdement handicapé, il ne bouge que le visage, donc il ne sait pas à quoi ressemble son corps, il n'a aucun contact lui-même avec son propre corps. Si moi, je ne bouge pas ses mains, ses membres, il n'a pas de contact avec mon corps à moi non plus. Donc selon les différents types de handicap, les personnes n'ont pas les mêmes sensations.
Vous n'êtes pas là pour juste soulager, quoi.
Non, ah non, non, surtout pas. On a une vidéo sur notre site d'un accompagnement sexuel au Japon. C'est comme ça que ça se passe au Japon, donc je, voilà, aucun jugement. Mais c'est très froid. On voit ce monsieur allongé, cette femme qui se met à genoux à côté de ce monsieur, qui enfile des gants en latex, qui met du gel dans sa main, qui le masturbe de façon très froide, comme si elle était en train de faire une omelette. Et puis, c'est fini, voilà. Elle l'essuie. Au revoir, monsieur, puis elle part. Je trouve ça horrible. L'accompagnant sexuel peut avoir du plaisir aussi. Les messieurs que j'ai pu rencontrer qui m'ont dit « Waouh, j'ai pris vachement de plaisir. » Et surtout, j'ai pris énormément de plaisir de voir que je te donnais du plaisir aussi. Plusieurs hommes m'ont dit « Je me sens homme. » Malgré mon corps un peu maigre, chétif, où je me sens pas très viril, etc. Bah là, pendant un quart d'heure, une demi-heure, je me suis sentie... très viril, quelqu'un qui me disait « j'avais l'impression d'être Rocco Siffredi » parce que t'avais l'air vraiment d'apprécier, de prendre du plaisir. Et je pense que c'est important que l'accompagnant sexuel prenne du plaisir réellement, soit pas non plus dans la simulation. Nous, on pense que ça doit être une solution qui doit pouvoir être envisageable et proposée librement en France.
Voilà, Gilles Nuss est l'épouse de Marcel Nuss, fondateur de l'APAS, l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel pour les personnes handicapées. Il a également publié d'ailleurs son autobiographie « En dépit du bon sens » aux éditions de l'Éveil. L'APAS dont vous êtes le vice-président, Hakim Boudaoud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, sexologue. Pourquoi aujourd'hui la France ne reconnaît pas ce métier qui n'est pas illégal, mais des professionnels du handicap qui mettraient en relation un assistant sexuel à une personne handicapée pourraient être accusés de proxénétisme? Pourquoi c'est si verrouillé en France?
Je pense une question de mentalité et de représentation que nous avons sur la question et du handicap et de la vie affective et sexuelle. Est-ce que ça génère des peurs? Est-ce que ça génère des angoisses? Je ne sais pas. Mais le tout, c'est comment autoriser cette personne, enfin l'autoriser, lui reconnaître la liberté.
Justement, on va en parler juste après le flash. On va en débattre avec un politique, Jérôme Guedj, une association féministe. Et quant à vous, les voisins et les voisines, appelez-nous vite si vous souhaitez vous exprimer sur le sujet « Quel droit à la sexualité pour les personnes handicapées ?» Si vous avez des personnes handicapées dans votre famille, si vous êtes témoin d'une nécessité, appelez-nous tout de suite au 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans 3 minutes sur RFI.
France 24 vous accompagne.
Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, quel droit à la sexualité pour les personnes handicapées? En première partie, nous écoutions un reportage d'Alice Milot sur les assistants sexuels qui offrent des prestations sexuelles tarifées en France après formation. Ces assistants sont formés par l'APAS, l'Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, dont vous êtes le vice-président Hakim Boudaïd. Vous êtes psychologue, sexologue et vous êtes dans le studio avec nous. En 2013, le Comité national consultatif d'éthique en France donc, s'est prononcé contre la reconnaissance du métier d'aidant sexuel, hein, pour reprendre les propos du Comité national consultatif d'éthique. Il n'est pas possible de faire de l'aide sexuelle une situation professionnelle comme les autres, en raison du principe de non-utilisation marchande du corps humain. Voilà, c'est une vraie question de débat. Je vous livre quelques messages postés sur notre fil Facebook des voisins qui sont partagés sur cette question. Quel droit à la sexualité pour les personnes handicapées? D'abord, une personne concernée, Maglo. Il a 46 ans, il est à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Il nous dit « La mère de mes enfants est handicapée, nous avons eu 3 enfants ensemble. Je ne vois donc aucune barrière à une sexualité épanouie pour une personne handicapée, que ce soit donc avec un assistant sexuel ou non. » Palmer à Bamako nous dit « Les personnes handicapées ont les mêmes besoins que les autres, qu'on parle de plaisir sexuel ou d'autres choses. » Fadja Kanjamena au Tchad nous dit, lui, pour lui, l'assistance sexuelle vient pervertir l'âme. Le rapport sexuel a un côté caché qu'il faut conserver. À force d'ouvrir l'esprit des gens, bientôt, ils se promèneront nus dans les rues. Rien n'empêche que la relation sexuelle demeure cachée au sens intime terme. Ceci dit, on n'a pas dit que... autre point de vue, François, qui est également au Tchad, un point de vue différent. Certaines personnes handicapées ne peuvent pas accéder seules à la sexualité. Si l'assistance sexuelle est vraiment possible pour ces personnes, alors qu'attendons-nous? Inès à Cotonou, au Bénin, nous dit « Les voisins, moi j'aime bien le politiquement correct, mais il faut quand même appeler une carotte une carotte. Se faire payer pour accompagner une personne vers le plaisir sexuel, ça s'appelle de la prostitution. Je ne juge pas, car les personnes handicapées ont aussi le droit de prendre du plaisir. Mais alors comment éviter les abus sexuels sur des personnes vulnérables? Quelle est la frontière entre l'affectif et le professionnel ?» Et puis Roland à Lomé au Togo qui pose la même question. Pourquoi est-ce qu'un assistant sexuel serait comme une prostituée? Alors lui, question dans l'autre sens. Je suis pour que les personnes handicapées puissent se marier comme tout le monde, avoir une sexualité comme tout le monde. Et il faut changer de mentalité afin que ces personnes ne soient plus considérées comme un poids pour la société. Appelez-nous si vous êtes directement concerné par ce qu'on vient d'évoquer. Donc, quel droit à la sexualité pour les personnes handicapées? 33 1 84 22 71 71. Hakim Boudaoud, vous voulez réagir par rapport à ces témoignages que je viens de lire?
Oui. Ils viennent tous d'Afrique. Oui, on voit que bon, c'est mitigé. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui ont une crainte que ça déborde. Et ça rejoint le travail qu'a fait mon ami chercheur Alain Giammi il y a plus de 30 ans. Il a appelé cette question l'ange et la bête. C'est-à-dire les gens le voient comme un ange qui est asexué, qui ne peut pas avoir les pulsions sexuelles, et d'autres le voient comme une bête déchaînée, etc. Voilà, on en est presque au même stade des représentations. Alors qu'aujourd'hui, on parle de dignité, on parle de réincarner le corps. Quelqu'un qui ne peut pas toucher son corps, qui ne peut pas connaître les sensations du bien-être, tout simplement, d'apaisement, etc.
Alors, on est en ligne avec Jérôme Guedge, qui est conseiller départemental socialiste de l'Essonne et ancien président du Conseil général de l'Essonne. Bonjour Jérôme Guedge.
Bonjour.
Vous faites partie de ces politiques qui plaident depuis plusieurs années pour la création d'un véritable statut d'assistant sexuel. À l'heure actuelle en France, il faut bien repréciser que le fait d'être assistant sexuel n'est pas illégal en tant que tel. Mais par contre, toute personne qui mettrait en relation l'assistant sexuel avec une personne handicapée peut être condamnée pour proxénétisme. C'est bien cela, Jérôme Guedge?
Oui, c'est cela. En fait, moi, je plaide pour que la question de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées, d'abord, ne soit pas un tabou. Et donc, il faut en parler. C'est un sujet qui concerne des citoyens à part entière. Et donc, il y a un sujet de la vie affective et sexuelle pour les personnes qui vivent à domicile ou les personnes qui vivent en établissement, que leur famille, leur entourage, les professionnels qui travaillent à leur côté soient conscients qu'il y a une vie affective et sexuelle et que c'est pas uniquement une personne handicapée. Et puis, il y a le sujet que vous évoquez, qui est la question de l'assistance sexuelle pour des personnes lourdement handicapées, qui n'ont pas accès à leur corps, et pour lesquelles, jusqu'à présent, la seule solution consiste soit à avoir une intervention qu'on va qualifier amicale, parfois très proche de quelqu'un, et moi j'ai connu des témoignages, on en connaît tous, de parents qui aident leur propre enfant à avoir une forme de sexualité, et disons les choses telles qu'elles sont, avec parfois de la masturbation de parents à enfants, on ne peut pas se satisfaire de ce type de situation, ou bien alors le recours à des prostituées, et je le dis aussi tout de suite, je ne me satisfais pas de cette situation parce que je suis contre le recours à la prostitution pour tout le monde, y compris pour les personnes en situation de handicap. Mmh. Et une fois qu'on a écarté ces deux écueils, la responsabilité des citoyens et des hommes politiques et de ceux qui font vivre le débat, c'est de se dire, eh ben, est-ce qu'on met la tête dans le sable en disant le problème n'existe pas, ou alors on le laisse se traiter dans la sphère familiale, ou bien en recourant à des prostituées, mmh. ou bien est-ce qu'on va trouver quelque chose d'inédit, quelque chose à construire, qui permet de traiter la question de l'assistance sexuelle sans franchir la ligne jaune ou la ligne rouge de la prostitution. Oui. Et c'est la réflexion que moi j'avais souhaité lancer dans mon départ. Mmh.
Mais alors, quand vous parlez de laisser traiter la question dans la sphère familiale, ce que vous venez d'évoquer, je ne sais pas si vous confirmez, Hakim Boudaoud, que des parents sont acculés à répondre à une demande de masturbation de la part de leurs enfants. On est dans une situation absolument de misère sexuelle totale, d'inceste.
Oui, voilà. Donc, mamans qui masturbent leurs enfants, c'est intolérable. On préfère voir
là,
ça.
Là, on est même dans une situation de danger. De danger de santé psychique pour ses enfants et dans l'interdit total.
Nous, dans le site, on reçoit des demandes des mamans qui disent voilà, je suis presque à bout parce que sinon, c'est moi qui vais le faire. Alors, je vous demande, je vous sollicite pour me trouver quelqu'un pour aider mon fils à accéder à son corps, à lui apprendre à se masturber ou à le masturber. Sinon, c'est la sœur qui va le faire, ou c'est la maman qui va le faire, ou c'est le père qui va le faire.
Alors, c'est un débat où on a on est bien au-delà des clivages politiques classiques, hein, Jérôme Guedj, parce qu'il y a, à l'intérieur même de la mouvance de gauche, du Parti Socialiste, etc., d'autres élus qui, contrairement à vous, ne sont pas du tout d'accord avec vous. Par contre, vous pouvez être sur la même position que certains élus UMP, Parti Les Républicains aujourd'hui, Jérôme Guedj.
Oui, enfin, vous avez raison. D'abord, il y a ceux qui veulent parler du sujet, en considérant qu'il faut le faire vivre dans le débat public. Mais encore une fois, il faut rappeler quelques principes fondamentaux. Je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Moi, je veux éviter les deux écueils. Ce que j'ai évoqué sur le recours à la sphère familiale, avec toutes les dérives qui viennent d'être mentionnées, mais aussi le recours peut-être un peu trop facile en disant, eh bien, on peut peut-être tolérer une prostitution pseudo-encadrée pour les personnes en situation de handicap. Je considère qu'il y a un danger à céder à cette facilité. Et donc,
vous voulez que ça soit très séparé, hein, qu'il y ait une frontière bien étanche entre ces assistants sexuels et de la prostitution?
Oui, et donc ça pose la question de savoir dans quelles conditions l'assistance sexuelle peut être à la fois éthiquement et juridiquement acceptable. Et d'ailleurs, vous savez, quand on parle d'assistance sexuelle, moi, je vous prends un témoignage de gens que j'ai rencontrés dans mon département de l'Essonne, qui sont deux personnes, elles-mêmes, lourdement handicapées, et pour lesquelles le besoin d'assistance sexuelle, c'est une tierce personne qui va les aider à avoir un rapport sexuel. Et donc là, l'assistant ne va pas avoir une relation sexuelle avec la personne, mais va aider à avoir une relation. Eux-mêmes nous disaient, je ne veux pas recourir à des amis, et je ne veux pas demander à mon auxiliaire de vie sociale, celle qui s'occupe de nous au quotidien, qui fait notre toilette, de rentrer un peu plus dans l'intimité. Donc, il y a
du couple.
Un métier particulier à faire. Et puis, il y a la question de la relation sexuelle. Et donc, si on ne veut pas que ce soit qu'on demande à des amis un coup de main, ou pire, à la famille d'intervenir, si on ne veut pas non plus recourir aux prostituées, comme c'est trop souvent le cas, parce que c'est la seule solution existante, vrai dans des établissements, c'est vrai dans des familles, alors il faut inventer quelque chose qui serait d'encadrer une pratique que moi je qualifie d'altruiste, de don, bénévole, avec des personnes, c'est la piste sur laquelle nous souhaitions réfléchir, dont on s'assurerait de la sincérité des motivations, de l'équilibre psychologique, et qui seraient prêtes, comme d'autres personnes donnent de leur temps et parfois de leur énergie aux côtés de personnes en situation de fragilité, voir si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible.
Mais inventer quelque chose, hein, donc. Je voudrais que nous donnions la parole à Rima Ashtouk. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du mouvement Oser le féminisme, hein, un mouvement qui, comme son nom l'indique, est très précisément sur la défense du droit des femmes. Quelle est la position de votre mouvement sur le besoin, la nécessité de donner un statut à ces assistants sexuels qui, pour le moment, opère à la demande de personnes handicapées de manière tout à fait, on ne va pas dire illégale, mais en tout cas non officielle, non reconnue.
Pour nous, très clairement, il y a deux choses. Il y a la prostitution, quelle qu'elle soit, et pour quelque partie de la population qu'elle soit, est intolérable. Parce que la prostitution, c'est une violence. et on peut dire ce qu'on veut, à partir du moment où une personne va contre de l'argent satisfaire des besoins sexuels, c'est de la prostitution. De toute façon, il faut mettre le mot dessus. Après, il y a la question de la détresse et de la misère sexuelle dans laquelle sont les personnes handicapées, et ça, c'est quelque chose de très très grave, et c'est très important de se pencher sur la question. Et nous, on trouve que le principe d'assistanat sexuel, en fait, c'est une mauvaise réponse à cette question. Et c'est même pas écouter les demandes qu'il y a derrière. Parce que la demande, elle n'est pas juste sexuelle, elle n'est pas juste mécanique. En fait, il ne s'agit pas juste de répondre à un besoin mécanique qu'est l'acte sexuel. Il y a plein de choses qui sont derrière. Il y a une souffrance émotionnelle, il y a une souffrance affective. On a entendu dans le témoignage beaucoup parler de besoin d'être touché, mais d'être touché avec amour, avec érotisme, de la part de quelqu'un qui en a envie. Et en fait, dire qu'on ne peut répondre à cette détresse sexuelle que par la prostitution, en fait, c'est horrible. C'est dire qu'en tant que personne handicapée, on ne peut atteindre la sexualité ou une vie sentimentale, affective, que lorsqu'elle est payée.
Ça veut dire que pour vous, la frontière qui ne peut pas être franchie, c'est la question de la tarification.
Mais la tarification est du fait de l'acte sexuel comme un service ou comme quelque chose comme ça. C'est pas possible. En fait, il faut, au contraire, et en plus, ça ghettoise les personnes handicapées parce que du coup, ça se passe chez elles, c'est bon. Pour moi, c'est vraiment mettre la tête dans le sable, comme il disait.
Mais il y a tout de même dans la prostitution classique, Rima Achtouk, une forme de violence, de domination masculine, voire des violences physiques. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez, vous toutes, beaucoup milité pour pour qu'il y ait une vraie pénalisation des clients de prostituées avec la loi de juin 2015. Vous pensez qu'il y a ce même rapport de force entre un homme lourdement handicapé physique et une assistante sexuelle?
Bien sûr, parce qu'en fait la violence elle n'est pas forcément physiquement faite par le client envers la personne prostituée. La violence en fait c'est de forcer son corps, de se forcer à faire quelque chose qu'on ne veut pas, c'est de se déposséder de son corps.
La violence c'est la violence de l'argent en fait finalement pour vous.
C'est la violence, oui exactement. Et juste, je voulais rajouter que effectivement, il y a plein d'autres solutions avant de passer à ça. Par exemple, on parle de sexualité des personnes handicapées. Il faut savoir que dans les institutions où les personnes sont lourdement handicapées, cette sexualité est fortement réprimée. Dès qu'on trouve deux pensionnaires ensemble, on les sépare, on les empêche d'avoir cette vie sexuelle vie sexuelle affective. Alors qu'on devrait... On devrait en parler, on devrait les encourager, on devrait les aider.
Hakim Boudaïd, vous êtes d'accord sur ce point-là.
Ah oui, je peux vous donner des témoignages d'il y a 15 jours, où on empêche des personnes handicapées de se retrouver ensemble pour une intimité sensuelle, même pas sexuelle, tout simplement. On les empêche même de manger ensemble, aujourd'hui, d'exprimer ces émotions que vous avez évoquées tout à l'heure.
Pourquoi ?
On ne sait pas. C'est des professionnels qui disent non, selon le règlement de l'institution, tu n'as pas.
Mais l'inquiétude derrière, c'est quoi l'inquiétude des professionnels ?
Moi, je pense que les professionnels, s'il peut être actif et avoir des rapports sexuels, donc il n'est pas handicapé. Le raccourci. C'est quoi l'activité sexuelle ? C'est l'attachement, c'est l'affection. Ils le disent, j'aimerais bien connaître ce que c'est le toucher, le corps de l'autre, mon corps, etc.
Marcel Nuss disait dans le reportage, c'est aussi inconsciemment la peur de la procréation.
Oui, il y a
ça aussi. Les mots qu'il emploie, c'est la peur que ces monstres se reproduisent. Ce sont ses propres mots, bien sûr.
Ben, il le dit, le monstre, reproduire le handicap et reproduire le monstre. Et ça, c'est j'ai eu des mamans qui témoignaient, qui disaient, je souhaite la mort de mon fils ou de ma fille. Pour ne pas reproduire le handicap.
Vous pensez que si dans les institutions sont accueillies les personnes handicapées, elles ne sont pas toutes accueillies dans des institutions, Dieu merci d'ailleurs, beaucoup restent à domicile, mais si du moins dans ces institutions on favorisait des rapprochements affectifs, sentimentaux, sexuels, on pourrait se passer de ce besoin d'assistance sexuelle ou pas, Hakim Boudaoud?
Si, moi je suis sûr et certain. Si on mettait en place des formations sur l'accompagnement, réellement l'accompagnement de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées, on aura... Ben, l'idéal pour nous, la PASSE, c'est de se passer. Effectivement, on n'aura pas besoin de cet accompagnement ou de cette assistance sexuelle. Parce qu'elle est prise en compte, pour ne pas dire prise en charge. Elle est prise en compte dans les établissements. Elle est prise en compte dans le domicile des personnes. Mais non, c'est un sujet tabou, on la met de côté. S'il y a une chose qui n'est pas du tout...
Mais quid des personnes handicapées qui sont à domicile, qui n'ont pas forcément... qui ne se rendent pas dans des centres à ce moment-là. Quelle chance pour ces personnes de faire des rencontres, d'avoir accès à une vie affective?
Très maigre. Très minime. Une souffrance. D'ailleurs, Marcel Nuss, il est provocateur, il le dit. Si vous voulez avoir une chance de rencontrer quelqu'un, allez-y en établissement. ne restez pas chez vous.
Jérôme Gage.
Oui, mais vous voyez, je partage tout à fait ce qui est dit à l'instant. La question de la sexualité, de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées, c'est d'abord avant tout de savoir comment est-ce que les personnes handicapées peuvent avoir une citoyenneté à part entière, une vie sociale la plus classique possible, qui permet précisément les rencontres. C'est la solitude, en grande partie, et l'isolement qui va générer aussi la misère et la détresse sexuelle. Donc, acte 1, la pleine citoyenneté pour les personnes handicapées, ça peut avoir une dimension un peu incantatoire de le dire ainsi, mais c'est en permanence rappeler ce droit à une pleine citoyenneté. Dans les établissements et les institutions, vous l'avez rappelé, c'est d'abord de sortir de cette espèce de dogme qui consiste à dire la personne qui est là, on doit s'en occuper, elle est malade avant tout, on l'accompagne, mais ce n'est pas une personne qui a aussi des émotions, des sensations, des fantasmes, et donc laisser cours. Et là, il y a quand même, il faut le souligner, ces dernières années, un gros travail qui a été fait par les gestionnaires, les associations qui gèrent ces établissements pour former leur personnel justement à la vie.
Mais
affective,
en même temps, la majorité des personnes handicapées refusent ce qu'elles appellent le sexe médicalisé. Elles veulent du sexe comme tout le monde, donc justement en dehors des structures et des professionnels.
Ouais, un sexe humanisé quoi.
Le sexe comme tout le monde, c'est celui qui se noue à travers des rencontres, à travers une séduction, à travers de l'amour, à travers de l'érotisme. Mais en même temps, il ne faut pas non plus mythifier le sexe. Le sexe peut aussi être une pratique, utilitariste, qu'il s'agisse de l'autosexualité. Et il faut aussi, là, se poser la question, pour la personne qui n'a pas accès à son corps, du fait de la lourdeur de son handicap, reste le problème pour lui ou pour elle, parce qu'il ne faut pas oublier que ça concerne les femmes aussi, pour lui ou pour elle, de comment est-ce que je peux avoir ces sensations, ce plaisir et cette sexualité. Et on retombe pour des cas marginaux, mais qui doivent être traités, de la question de cet accès à la sexualité, d'une forme d'assistance, même si je le dis tout de suite, moi je ne considère pas qu'il y a un droit à la sexualité. Voilà. Mais on doit pouvoir accompagner les personnes qui ne peuvent pas vers cette sexualité.
Oui, je vous rejoins là-dessus. On a le droit à la liberté. Et non pas la sexualité.
Et à la dignité individuelle.
À la dignité humaine.
Rima Achetouk, pour le mouvement Oser le féminisme, vous avez beaucoup pesé pour que la loi de juin 2015 donc, pénalise les clients des prostituées. À l'heure actuelle, une personne handicapée qui ferait appel à un assistant sexuel pourrait tomber sous le coup de la loi et d'être pénalisée comme client de prostituées, hein, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, Rima Achetouk.
Oui, j'imagine, oui.
Je vous en prie, Rima Achetouk.
Oui, j'allais dire, après, au final, que le client soit handicapé, que ce soit un ancien prisonnier, que ce soit quelqu'un de timide, qui n'a jamais eu de relation sexuelle jusqu'à 40 ans, la différence n'est pas là. En fait, c'est l'acte qui est condamnable. Et comme on le dit depuis tout à l'heure, ce qu'il faut aider, là où il faut vraiment aider les personnes handicapées, c'est à retrouver une vie sociale normale. Et ça... En fait, avec cet acte sexuel, entre guillemets, à domicile, on fait tout le contraire.
Mais ce métier est reconnu comme tel par plusieurs pays, les États-Unis qui l'ont fait les premiers, les Pays-Bas, la Suisse, l'Allemagne, le Danemark. Il ne semble pas qu'il y ait des dérives à Hakim Daoud.
Non. Et nous, ça se pratique sous le manteau parce que nos usagers, enfin les personnes handicapées, ben, ils vont où? Ils vont en Belgique, ils vont en Allemagne, ils vont en Suisse pour avoir ces prestations.
Ou en tout cas, ils se mettent en relation avec ces associations qui peuvent leur donner des contacts d'assistance sexuelle en France.
On organise des
pour
séjours.
Pour échapper à la condamnation de proxénétisme, au risque de condamnation.
Tout à fait. On organise des séjours en Allemagne pour avoir une prestation sensuelle, affective, et peut-être, ils le disent, et peut-être sexuelle. Parce que tout le fantasme, c'est de dire, voilà, ils vont avoir une relation sexuelle. C'est pas ça qui est demandé, au fond. Moi, je dis souvent que la sexualité, l'orgasme et le sexe, c'est la cerise du gâteau. Eux, ils veulent le gâteau, c'est-à-dire les rencontres. L'écoute, ils le disent, une
et
présence.
Quel est, à vos yeux, le pays où c'est le mieux organisé, le mieux encadré?
Moi, je pense que c'est la Suisse. Je pense
que
c'est la Suisse, parce que derrière, il y a une formation, il y a une juridiction qui cadre. Il y a un cadre juridique, il y a un cadre, et je dirais, et théorique et pratique.
Il faut d'ailleurs un casier judiciaire vierge hein, pour devenir assistant sexuel en Suisse.
Et que ça ne soit pas le métier principal. C'est-à-dire les gens qui apportent ce service-là le font en plus de leur profession initiale.
Et pour se former, ça coûte 2 500 euros en Suisse, donc il faut être très motivé et pas tellement motivé par l'appât du gain. D'abord, on commence par dépenser pour se former. Rima Achetouk, les exemples en Europe et ailleurs vous semblent préjudiciables pour un débat en France ?
Bah alors déjà, il faut dire que dans tous les pays où il y a ces exemples, hein, c'est des pays qui sont réglementaristes et où la prostitution n'est pas pénalisée. Et enfin, les exemples ne sont pas si florissants, puisque en Suisse, justement, où on a dit il y a 5 ans que justement ça ne devrait pas être un métier et que les personnes qui exerçaient cet assistanat sexuel devaient avoir des métiers à côté, on se rend compte 5 ans après que l'énorme majorité d'entre elles, et parce que ce sont beaucoup des femmes, sont d'anciennes prostituées et en fait ont décidé de se spécialiser. Donc on reste vraiment dans la prostitution. Et aux Pays-Bas, par exemple, où on dit que c'est devenu un service public, il y a quand même un syndicat d'infirmières qui, en 2010, a fait une campagne pour rappeler qu'une infirmière n'est pas une personne prostituée. Donc, c'est que ces dérives existent et qu'il n'y a pas de limite, en fait. C'est pas parce que ce sont des personnes handicapées que ce n'est pas de la prostitution.
Mmh. Jérôme Gage.
Oui, ben, comme cela vient d'être dit, ces expériences, c'est toujours dans des pays où la prostitution est tolérée, réglementée ou même totalement légalisée. Dès l'instant où, avec d'autres, je refuse toute marchandisation du corps humain, toute domination du corps du ou de la prostituée, je récuse totalement le modèle. Mais une fois qu'on a dit ça, je nous dis qu'on a un challenge formidable pour essayer de trouver une solution intermédiaire. Peut-être que c'est pas possible, mais pour l'instant, personne n'a essayé. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander, avec les associations, aux puissances publiques concernées, je pense notamment aux conseils généraux, parce qu'ils travaillent avec tous les acteurs du handicap dans les départements, d'avoir des lieux où on encadre, on forme, on évalue des gens qui seraient des bénévoles et dont on proposerait de les mettre en contact avec des personnes en situation de handicap. On est dans une pure logique d'altruisme et de don, en admettant qu'il y a une dimension purement sensuelle ou éventuellement sexuelle, on ne le cache pas et on regarde si ça marche. On n'est pas sous le...
Dans l'ensemble, les associations qui s'occupent des personnes handicapées, qui représentent les personnes handicapées, sont sur la même longueur d'onde là-dessus?
En tous les cas, il y en a quelques-unes qui militent au nom d'une sorte de pragmatisme en disant tout ça c'est trop compliqué, légalisons une forme de prostitution autorisée pour les personnes lourdement handicapées, mais je dis tout de suite, ça c'est une voie qui n'est pas praticable. Parce que ça voudrait dire en gros, en France, on légifère sur la prostitution, mais on ferait une exception pour les personnes handicapées. Je trouve que d'abord c'est une forme de stigmatisation, et puis surtout on se rend compte que ce serait totalement impossible à mettre en œuvre. Qui délivrerait l'autorisation de recourir à une prostitution? Est-ce que la carte d'invalidité de handicap donnerait le droit à avoir... Vous voyez, c'est pas du tout praticable.
En tout cas, aujourd'hui, on est dans une vraie situation de paradoxe en France. La loi française ne reconnaît pas l'assistance sexuelle aux personnes handicapées. Elle ne distingue pas l'assistance sexuelle et la prostitution. Mais en même temps, la justice française a autorisé la formation de la PASS, dont vous êtes le vice-président, Hakim Boudaoud, à délivrer des formations. Donc la formation est légale, l'assistance sexuelle ne l'est pas réellement. C'est ça, finalement.
Oui, on peut le dire comme ça, effectivement, que la formation est légale et la pratique elle-même ne l'est pas.
Jérôme Gage, vous pensez que le débat public va être un jour ouvert, comme l'avait promis d'ailleurs François Hollande avant d'être président?
D'abord, on y contribue en débattant avec vous sur votre antenne, mais avec d'autres, moi je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. J'ai entendu la ministre concernée qui a rappelé le refus de la prostitution et en même temps en disant il y a un sujet. Et encore une fois, je dis à un moment, il faut qu'on prenne les choses pas de manière théorique et qu'on regarde un endroit, dans un département, dans un autre, si on est capable d'inventer quelque chose, si ça marche, s'il y a des gens qui ont envie de venir faire ça de manière bénévole, encadrée, surveillée, si on peut travailler avec des associations pour mettre en contact, avec des applications sur smartphone. Enfin, soyons un peu inventifs pour regarder comment on peut traiter une situation en évitant les deux écueils qu'on a mentionnés tout au long de ce débat. Mais c'est sûr que plus on en parle de manière circulaire, sans à un moment prendre les choses à bras-le-corps, moins on avancera. Bon, j'avais essayé de lancer ça dans mon département. On était sur le point de déboucher sur une forme d'expérimentation. Malheureusement, je ne suis plus président du conseil départemental, mais j'invite mes collègues à continuer à porter ce débat.
Oui. Sincèrement, si on veut éviter la médicalisation de cette question-là, il faut débattre et il faut apporter des réponses concrètes à cette question-là. Si vous me permettez, je vous lis 2 secondes. Un témoin, j'ai une maman qui me dit, mon fils, elle nous écrit, son fils de 19 ans souffre de pulsions. La réponse institutionnelle, elle nous écrit.
De pulsions sexuelles.
Oui, des pulsions sexuelles. Elle me dit, la réponse, c'est quoi? C'est que l'institution a demandé au psychiatre d'élaborer un traitement qui apaiserait ses pulsions. Voilà. Si on veut éviter ce genre de réponse...
Oui, c'est évidemment, c'est tout sauf une maladie. Hein. C'est juste un besoin humain. Voilà. Merci à vous tous, Hakim Boudaoud, vice-président donc de l'APAS, hein, l'association qui milite pour la reconnaissance du métier d'assistant sexuel. Jérôme Gadge, merci d'avoir été en ligne avec nous, et Rima Achtouk, également du collectif Oser le féminisme. Merci à vous les voisins et les voisines pour vos messages. Merci à toute l'équipe, Éléonore Crénier, Camille Néran, Romain Dubrac, Sandrine Straram, pour toutes vos réactions. Vous pouvez bien sûr nous écrire, comme chaque jour, à 7milliards@rfi.fr. Et vous pouvez aussi réécouter toutes nos émissions et donc le reportage d'Alice Milot de la première partie de l'émission sur le site rfi.fr à la page des 7 milliards de voisins. Demain, 7 milliards de voisins, je vous propose de réécouter notre émission sur les enfants de couples mixtes, nationalité, religion, métissage. Quelles sont leurs interrogations? L'image que la société leur renvoie d'eux-mêmes aussi? Et à quoi et à qui se sentent-ils appartenir? C'est à vous de nous répondre, bien sûr, les voisins et les voisines, si vous êtes le fruit d'un couple mixte. À demain.